Chers frères et sœurs, comment construire son identité? À partir de quoi forger son identité? C'est la question qui se posait à l'époque où le livre de l'Apocalypse a été rédigé au IIe siècle de notre ère. Alors que le christianisme n'était plus seulement une affaire concernant des juifs entre Galilée et Jérusalem, mais que le christianisme commençait à se répandre dans le bassin méditerranéen. C'est une question qui se pose toujours, à l'heure actuelle, alors que nous ne sommes pas que des protestants issus des vallées septentrionales. C'est une question qui se pose maintenant que nous savons que tous les Français ne descendent pas non plus en ligne directe de vers Saint-Gédoris. Alors, pour ne pas tourner autour du pot, je dirais d'emblée que ce que je comprends de ce texte biblique me fait dire que notre identité est en avant. C'est ainsi que je comprends cette vision spectaculaire d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre, d'une ville sainte qui descend du ciel. L'accomplissement du livre de l'Apocalypse, Apocalypse qui est un terme grec qui veut dire révélation, pas catastrophe. L'accomplissement du livre de l'Apocalypse consiste dans cette révélation ultime. Notre futur est tendu vers ce qui est à venir. Alors vous allez me dire que là, c'est quand même pas une grande nouveauté. Et quelque chose qui est même de l'ordre de l'évidence. Et je vous répondrai que le rédacteur a pourtant inscrit dans son texte cette maxime que nous ne devrions jamais oublier : je fais toutes choses nouvelles. S'il a besoin de le rappeler, c'est que cela n'est justement peut-être pas aussi évident qu'il y paraît. Et cette évidence selon laquelle notre futur est tendu vers ce qui est à venir est en parfaite contradiction avec une tendance lourde qui est toujours d'actualité, à savoir que se tourner vers le passé serait la seule façon de savoir ce que nous sommes, ce que nous devons faire et comment vivre ensemble. Et cela évidemment est d'autant plus vif lorsque le débat sur l'immigration reprend le devant de la scène médiatique. Être français, est-ce prendre pour modèle Vercingétorix, Jeanne d'Arc et Louis XIV? Je n'ai pas choisi Louis XVI à dessein, parce qu'il est tellement proche des protestants. Je ne parle pas de rien. Ou est-ce avoir en ligne de mire un idéal que l'on pourrait appeler républicain et dont on définirait collectivement le contenu? Être protestant, est-ce se référer à Gaspard de Coligny, Jean Cavalier et Marie Durand? Ou est-ce avoir en ligne de mire un idéal que l'on pourrait appeler théologique et dont on définirait synodalement, par exemple, le contenu? Entendons-nous bien, il ne s'agit nullement de faire comme s'il fallait tirer un trait sur le passé. La personne qui a cette vision dans le livre de l'Apocalypse a une histoire qui le précède. Elle se tient sur un lieu qui lui vient de loin. Elle n'est pas auto-fondée. Elle n'est pas son propre fondement. Elle n'est pas fondamentaliste. Mais elle sait que tout ne vient pas du passé. Elle n'est pas obsédée par son passé. Le livre de l'Apocalypse ne fait pas l'impasse sur ce qui s'est passé avant, mais il oriente le regard sur ce qui est à venir, car c'est cela qui fait sens. D'ailleurs, le livre de l'Apocalypse est entièrement traversé par l'histoire de Jésus, qui est une histoire qui a déjà eu lieu. Et c'est cette histoire qui irrigue le livre de l'Apocalypse. Donc, il n'est pas question de faire table rase du passé. En revanche, il s'agit d'utiliser ce passé comme une clé qui ouvre l'horizon, qui ouvre un avenir qui semble bouché À l'heure où le rédacteur écrit, nous sommes en pleine période de persécution des chrétiens menée par l'Empire romain. Quand il va se référer à Jésus tout au long de son livre, le rédacteur du livre de l'Apocalypse va faire comme Jésus, porter son regard en avant sur ce qui est à vivre, sur ce qui est à imaginer, sur ce qui est à créer, sur toutes ces choses nouvelles qui sont à penser et à bâtir. Jésus n'a jamais fait du passé la norme à laquelle il fallait se conformer, mais une ressource pour imaginer le présent. Alors, bien entendu, il n'est pas question de forcer qui que ce soit à adopter cette vision des choses. Toutefois, le rédacteur met en garde ceux qui considéreraient que nous devons nous conformer à ce que nos ancêtres ont été pour pouvoir être pleinement membres de la communauté. Et le rédacteur le fait en établissant cette liste de personnes qui ne connaîtront que le feu ardent et le soufre. Un verset que bien souvent on ne lit pas, le verset 8. On s'arrête en général juste avant, quand ça reste très positif. Mais il faut maintenir ce verset 8, qui est une menace. Cette menace, c'est la menace de l'enfer, figure symbolique d'une vie qui n'est plus possible. Ce qu'il nomme la seconde mort, c'est-à-dire une mort qui n'est pas biologique, mais existentielle. Il semble un peu étrange au XXIe siècle de parler encore de l'enfer. Cela peut sembler bien naïf. Qui pourrait encore prétendre qu'il y a un enfer? Mais si l'on pense l'enfer comme une métaphore, et ici la métaphore de ceux qui vivent sans Dieu, je dis de façon un peu polémique pour l'heure, eh bien cela dit quelque chose à celles et ceux qui prétendraient vouloir vivre sans Dieu, ce qui est le cas en fait de la plupart de nos contemporains. Et donc, je le dis de façon polémique. Ces contemporains ils disent: non seulement on peut vivre sans Dieu, mais la vérité, c'est qu'on vit beaucoup mieux sans Dieu. Et bien, ce passage biblique, pourtant, dit exactement l'inverse. Il faut donc en faire quelque chose. Ce passage biblique dit que ceux qui ne veulent pas de Dieu, ceux qui ne veulent pas être fils de Dieu, ceux qui rejettent Dieu, sont ceux qui vont souffrir. On pourrait dire au sens strict du terme, et de manière donc légèrement polémique, que les athées sont condamnés à l'enfer. Vous voyez, là, on est dans une prédication tout à fait orthodoxe, tout va bien. Comment comprendre cela? Cela se comprend par la liste des personnes concernées. Elles ont en commun d'avoir un véritable problème avec l'autre, avec les autres. Le lâche fuit les autres. L'incrédule ne croit pas les autres. L'abominable ne respecte pas les autres. Le meurtrier non plus. Le débauché utilise les autres à son profit. Les magiciens manipulent les autres. Les idolâtres figent les autres. Et les menteurs escroquent les autres. Or, Dieu est la figure de l'altérité. Dieu symbolise l'autre, les autres. Dieu, c'est ce qui nous retient de tout rapporter à nous, de considérer que le monde est le simple prolongement de nous-mêmes et que le monde nous appartient. C'est aussi ce qu'exprime cette vision qui indique que la cité vivable n'est pas celle que nous avons bâtie à la force de notre poignet. La cité vivable vient, elle est à venir, elle est à créer. Elle est une nouveauté et non pas une pure continuation de ce qui a toujours été. Du coup, être sans Dieu, dans la perspective de ce rédacteur, c'est refuser qu'il puisse y avoir de la différence, de la variété. C'est refuser que cette variété soit décisive pour que la vie soit vivante. Être sans Dieu, c'est refuser qu'il puisse y avoir plus que ce que je souhaite dans l'équation de la vie. Être sans Dieu, c'est refuser qu'il y ait plus que ce que je mets moi-même dans l'équation de la vie. C'est alors que la vie devient un enfer. Et, dans une certaine mesure, c'est ce qu'exprime Jean-Paul Sartre dans Huis clos, qu'on comprend toujours à l'envers. Quand il dit l'enfer, c'est les autres. C'est les autres en ce sens que je suis transparent, que je suis invisible à leurs yeux. L'enfer, c'est les autres quand justement les autres refusent que je sois un autre. L'enfer, c'est les autres quand les autres rejettent l'autre. Il n'est qu'à voir l'attitude anxieuse de ceux qui font de l'histoire passée de la France la norme de vie pour toute personne qui prétendrait à la nationalité française. L'attitude anxieuse, viscéralement anxieuse, pour se convaincre que la vie sans altérité, la vie qui ne se tourne pas vers ce qui est à créer, la vie qui ne se tourne pas vers un idéal qui peut réunir une communauté humaine, n'est justement plus une vie, mais un enfer, une anxiété permanente. Le projet chrétien porté par ce passage de l'Apocalypse me semble être de faire demeurer Dieu parmi nous. Qu'est-ce que cela peut donc bien signifier de faire demeurer Dieu parmi nous aujourd'hui? Comment ça marche cette histoire? Eh bien déjà, rappelons-nous que c'est le vieux projet de l'évangile de Matthieu, Emmanuel, Dieu avec nous. C'est comme cela que commence l'évangile de Matthieu. C'est comme cela que commence le Nouveau Testament. Mais c'était déjà le projet du prophète Ésaïe, de la femme enfantant Emmanuel. C'est le projet qui retentit dans les différents oracles de la Bible hébraïque, partout où l'Éternel dit « Je serai votre Dieu, vous serez mon peuple ». Faire demeurer Dieu parmi nous, c'est accepter de n'être pas entièrement déterminé par notre passé, par ce qui a été fait juste là. Pensons aux plus jeunes, par exemple. Qu'est-ce que cette phrase théologique peut bien avoir comme conséquence sur notre vie personnelle? Eh bien, cela signifie, par exemple, que nous ne sommes pas obligés d'avoir le métier de nos parents. Cela signifie que nous ne sommes pas obligés de vivre là où nos parents ont toujours vécu. Je sais que je ne fais pas forcément des amis avec vos parents en disant ça. Mais vous n'êtes pas condamnés à reproduire ce que vos parents ont fait jusque-là. Vous avez le droit de faire votre propre histoire, de suivre votre propre chemin et de pouvoir répondre à des défis auxquels vos parents n'avaient pas eu à répondre jusque-là. Faire demeurer Dieu parmi nous, c'est accepter le fait qu'il puisse y avoir de la nouveauté, de l'inattendu, qu'il y ait des variations par rapport à ce qui a toujours été jusque-là. Faire demeurer Dieu parmi nous, c'est accepter que ce qui nous réunit, c'est un horizon commun plutôt qu'un passé commun. Le passé, je le rappelle, est utile. Il est utile pour y puiser les éléments de réflexion qui nous permettront de penser notre vie aujourd'hui. Mais c'est l'idéal de vie auquel nous adhérons. Dieu, pour le dire de manière théologique, qui est décisif pour construire une communauté. Ici, dans le passage de l'Apocalypse, le contenu de cet idéal, ce que Dieu désigne, c'est ce qui instaure une vie débarrassée de ce qui cause les pleurs, les cris, les grincements de dents. Une vie débarrassée de tout ce qui cause les séparations, les divisions, les blessures. C'est cela le royaume de Dieu. C'est cela le royaume des cieux. C'est cela la nouvelle Jérusalem. Une vie qui n'est plus orientée par ce qui blesse, par ce qui humilie, par ce qui fragilise, par ce qui endeuille, par ce qui effraie. Le royaume de Dieu, c'est lorsque nous orientons notre vie, nos choix de vie, dans le sens d'un apaisement des relations interpersonnelles, dans le sens d'une reconnaissance de l'autre qui va bien au-delà de la simple tolérance. Souvenez-vous de ce que disait Rabault Saint-Étienne à l'Assemblée constituante en août 1789. Ce n'est pas la tolérance que nous demandons. c'est la liberté. Ajoutant qu'il espérait bien, et Michel Gay nous le rappelait au mois de septembre, espérant bien qu'un jour on n'utiliserait plus jamais le mot de tolérance. L'Académie le maintient dans le dictionnaire. Le royaume des cieux. C'est lorsque notre vie est tendue par un idéal, vers un idéal, qui consiste à vivre en frères et sœurs avec les autres, tous les autres, y compris ceux que nous n'avons pas choisis, sans chercher à ce que l'autre s'aligne sur ma façon de vivre, mais en cherchant avec l'autre les bonnes manières de vivre cet idéal, cette société vraiment humaine, qui se préoccupe d'essuyer les larmes au lieu de les faire couler, qui s'efforce d'encourager les personnes au lieu de s'en débarrasser, qui s'efforce d'apporter la paix intérieure au lieu de plonger les autres dans l'angoisse, qui prend soin du prochain au lieu de s'évertuer à le faire souffrir. Contre une vie sans Dieu, c'est-à-dire sans préoccupation de l'autre, sans miséricorde, ce livre du passage de l'Apocalypse encourage à une vie avec Dieu, c'est-à-dire une vie qui porte les autres dans nos tripes et qui a une exigence très haute de la vie en commun. Contre une vie sans Dieu, c'est-à-dire une vie à notre seule mesure, une vie dont nous serions le centre de gravité. Ce passage de l'Apocalypse propose une vie portée à une autre dimension que notre seul intérêt ou notre seul espoir. La vie avec Dieu, c'est cette vie marquée par la grâce qui transcende les habitudes, qui sont parfois des faux vies. Cette vie marquée par la grâce qui transcende les postures, qui sont parfois des replis. La grâce qui injecte dans notre histoire la nouveauté nécessaire pour sortir de la lassitude, de l'exaspération, de ce sentiment de fatalité. La vie avec Dieu, c'est le renouvellement possible de notre existence. Quand nous avons le sentiment d'être arrivés au bout de tout, y compris au bout de la vie, imaginez-vous bien que cette parole retentit à l'avant-dernier chapitre de la Bible. Quand on pense être arrivé au bout de tout, le rédacteur dit « Je fais toutes choses nouvelles ». Vous pouvez fermer la Bible et commencer à écrire une nouvelle histoire. Une histoire qui n'a encore pas été écrite. Vous pouvez ajouter des textes au canon de la Bible. Vous pouvez ajouter votre propre texte. Et je m'adresse à nouveau au plus jeune. Vous devez être les auteurs de votre propre histoire. Il y a un moment où vous devez prendre vous-même le stylo pour écrire. Vous ne pouvez plus simplement vivre sous la tutelle des anciens. La grâce crée notre identité nouvelle. Par-delà le fait que nous serions hommes ou femmes, protestants ou d'une autre confession, français ou vietnamiens, ou de quelque autre catégorie que vous puissiez imaginer déterminer quelqu'un, la grâce crée notre identité nouvelle. Une identité que nous pouvons avoir en commun avec d'autres qui n'ont pas partagé notre passé, qui n'ont pas partagé nos combats, qui n'ont pas partagé nos malheurs, mais qui ont à cœur de partager un idéal de vie.